20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Un anniversaire ce soir, le 25e anniversaire de la chaîne Mezzo, qui donne lieu à une programmation spéciale tout à fait exceptionnelle. Nous en parlerons ce soir avec son directeur, Hervé Boissière, qui sera donc notre invité. Et puis comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune artiste, cette semaine la soprano Clarisse Dahl. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Myung-Woon Chung vient d'être nommé chef émérite de la Scala de Milan, une récompense symbolique pour le chef coréen de 70 ans qui a débuté en 1989 sa collaboration régulière avec l'institution milanaise pour laquelle il éprouve une vive affection. Le rêve de tout chef d'orchestre n'est pas de bien jouer, mais de jouer avec un orchestre qui comprend non seulement ce qu'il y a dans sa tête, mais aussi dans son cœur. Et s'il y a un orchestre qui le comprend bien, c'est le Philharmonica della Scala, a-t-il déclaré. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Chagall, à qui l'on doit notamment le plafond de l'Opéra de Paris, entretenait des liens très forts avec le monde musical et l'a exprimé dans son art. Alors une cinquantaine de ses œuvres liées à la musique inédites sur le marché provenant de la succession de l'artiste seront mises en vente par Christie's du 27 mars au 6 avril. Parmi les pièces maîtresses, la rencontre multicolore avec le peintre pour le concert, l'ange devant l'opéra et cette étude préparatoire ayant servi à la réalisation d'une œuvre monumentale créée pour le foyer du Théâtre de Francfort et intitulée « Commedia dell'arte ». Une vente en ligne donc qui s'accompagne d'une exposition du 30 mars au 6 avril chez Christie's Paris, avenue Matignon. Exposition rassemblant des œuvres datant de la seconde partie, voire de la toute fin de la vie de Chagall. Une quarantaine d'œuvres sur papier et une dizaine de lithographies. Quelques beaux rendez-vous de piano à venir. À Lyon tout d'abord, demain soir, salle Molière, dans le cadre de la saison Piano à Lyon. Nelson Gerner jouera la 28e sonate de Beethoven, Carnaval de Schumann et la sonate en si mineur de Liszt. Un programme dans lequel devrait s'exprimer le sens des couleurs, de la narration et la si profonde poésie de ce merveilleux pianiste argentin. Autre récital très attendu, celui de Cédric Tiberghien, vendredi soir à Saintes, dans le cadre magique de l'Abbaye aux Dames, dont la vie musicale ne se cantonne pas à la période estivale. Au programme Bach, transcrit par Brahms, Mozart et Beethoven, Beethoven dont le pianiste vient d'entamer une intégrale des variations pour Harmonia Mundi, intégrale dont un remarquable volume vient de paraître. Thank you. Un petit extrait des variations de Beethoven sur un air de Paisiello qui figure au programme du premier et merveilleux volume de l'intégrale des variations de Beethoven par Cédric Thiberguien. Cédric Thiberguien qui sera donc en récital vendredi soir en l'abbaye aux Dames de Saintes.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Le 21 mars 1998, il y a donc tout juste 25 ans, naissait la toute première chaîne de télévision dédiée à la musique classique, à la danse et au jazz, la chaîne Mezzo qui depuis rayonne à travers le monde et se décline même en deux chaînes, Mezzo et Mezzo Live. Son directeur Hervé Boissière est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment est né Mezzo il y a 25 ans, dans quel contexte, grâce à quelles impulsions?
Écoutez, c'était un contexte de pleine nouveauté audiovisuelle, hein, puisque c'était l'époque où les chaînes thématiques, on disait pas encore la TNT à l'époque, mais c'était l'ouverture un peu du marché audiovisuel, puisque on quittait un nombre de chaînes très limité, et c'était les grandes chaînes nationales, pour une offre plus riche, plus vaste et plus thématique, donc avec des premières chaînes de sport, d'information et donc de musique, de spectacle. Et c'est vraiment le résultat d'une impulsion de passionnés de musique et puis à l'époque du service public, puisque France Télévisions était extrêmement actif et un soutien majeur pour la naissance de ce projet et qui après a permis de regrouper très rapidement une autre proposition classique qui s'appelait Musique et pour créer le Mezzo qu'on connaît aujourd'hui, qui a été développé donc pendant plus de 25 ans dans cette alliance publique et privée.
Alors je le disais, c'est une chaîne qui est diffusée sur l'international. Combien de pays touchez-vous ainsi?
C'est presque une centaine de pays hein, aujourd'hui. Donc évidemment toute l'Europe, vraiment sans exception, est couverte et reçoit nos chaînes. Et puis en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique. Donc on a vraiment une couverture mondiale très 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 performante grâce à une très bonne distribution des chaînes. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, Mezzo s'est imposé un peu comme la référence. Donc aujourd'hui, les opérateurs ou les plateformes, enfin tous ceux qui proposent des chaînes linéaires, considèrent Mezzo comme un peu la chose à avoir pour tous les mélomanes. Et donc on a la chance d'être très bien référencés et d'avoir des partenaires très fidèles.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus friands de musique à la télévision que d'autres?
On a des très bonnes audiences au Canada. Oui. Hein, on sent qu'il y a une vraie vitalité du public, un intérêt mélomane très poussé en Russie. Hein, il y a une tradition évidemment sur la musique classique. Et puis en Corée, on va dire, oui. Ces trois exemples qui, sur chaque continent, illustrent bien la passion qu'ont ces publics pour écouter la musique, mais aussi la regarder grâce à Mezzo.
Alors Mezzo, ce sont deux chaînes aujourd'hui. Qu'est-ce qui les différencie, Hervé Boissière? Qu'est-ce qui les distingue?
Écoutez, on a l'objectif avec Mezzo Live d'être vraiment le reflet du meilleur de ce qui se passe sur scène aujourd'hui. Donc on dit souvent c'est la plus belle des salles de concert, d'opéra, de danse qu'on propose, puisque c'est la chaîne où on présente les lives, donc les directs. On a entre 40 et 50 directs chaque année, donc c'est une offre très très riche. Et l'idée, c'est vraiment de faire un tour du monde des meilleures scènes actuelles, que ce soit en musique classique, en opéra, en danse ou en jazz. Quand, pour Mezzo, on a une approche, on va dire, peut-être plus éditorialisée, plus pédagogique, où on présente bien sûr les grands événements aussi, mais on les raconte dans un contexte plus historique, plus éditorial. Il y a beaucoup de documentaires, d'archives pour mettre en perspective un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais avec d'autres programmes qui expliquent, on l'espère, bien la proposition qui est faite. Donc, une chaîne vraiment dédiée au live et au meilleur d'aujourd'hui, une chaîne qui est plus, on va dire, éditoriale, documentaire, historique.
Un chœur, extrait de Fidelio de Beethoven dans l'enregistrement de Nikolaus Harnoncourt avec l'Orchestre de Chambre d'Europe et le chœur Arnold Schoenberg. Nikolaus Harnoncourt, un chef lié à la chaîne Mezzo dont on célèbre ce soir le 25e anniversaire avec son directeur Hervé Boissière. Alors vous diffuserez samedi à 20h30 un Fidelio de Beethoven par Nikolaus Harnoncourt, capté, alors c'est une autre version, captée en 2004 à Zurich avec Jonas Kaufmann et Camilla Nilund, notamment dans la distribution. Nikolaus Harnoncourt, c'est un chef dont vous avez très régulièrement, très souvent diffusé les concerts sur Mezzo depuis de longues années.
Oui, tout à fait. Il faisait vraiment partie des grands fidèles de Mezzo. Et puis, on avait vraiment une passion. On avait, parce que malheureusement, il est disparu. Mais c'est vrai que Harnoncourt a fait partie des chefs très, très fréquents, privilégiés et adorés de l'équipe Mezzo. Je pense aussi à Bernard Haitink, je pense à Marie Sjansson, comme ça, qui sont des très grandes figures qu'on a pu accompagner avec leurs orchestre. Par exemple, le Concertgebouw d'Amsterdam, on a eu beaucoup de projets avec Haitink. Voilà, donc on essaye d'être très fidèle aussi, c'est-à-dire d'accompagner ces grands artistes dans la durée. Et comme cette chaîne a 25 ans, elle a la chance d'avoir pu capter les premiers moments. Vous parliez du Fidelio avec Jonas Kaufmann, mais il était tout jeune à l'époque. Il était vraiment la révélation. Aujourd'hui, c'est une star mondiale et c'est un artiste d'allemand accompli. Mais à l'époque de ce Florestan, il était vraiment à ses débuts de carrière. Donc, c'est passionnant de pouvoir les présenter à leur début, et puis de les suivre et de les voir grandir. Bon, et dans le cas d'un Nikolaus Harnoncourt, c'est évidemment un très grand maître qu'on était très, très fiers et très honorés de proposer régulièrement en concert ou en opéra.
Quelle relation, Hervé Boissière, arrivez-vous à établir avec les artistes? Comment arrivez-vous à les convaincre d'accepter les caméras, d'accepter de diffuser leurs concerts à la télévision? Les chefs d'orchestre, mais aussi les chanteurs, c'est quand même particulier pour eux.
C'est certainement une pression supplémentaire, ah oui, on va dire. Hein,
puisque... On sait déjà en radio, donc avec les caméras
voilà,
en plus.
Voilà, tout à fait, mais à la fois, ils voient bien la vertu de tout ça, c'est-à-dire de toucher un public beaucoup plus large que celui qu'ils rencontrent dans la salle. Donc, ils sont très heureux de savoir que tout le travail qui a été accompli pour présenter ce spectacle, ce concert, ce récital, eh bien, il est partagé par un nombre beaucoup plus important. Et en plus, aujourd'hui, on a une génération d'artistes qui est très attentive à cela. Hein, on n'est plus avec des artistes qui se contentent des quelques privilégiés dans la salle. Ça a été pendant quelques années, enfin, pendant de nombreuses années, même finalement pas un gros sujet, finalement, le public qui était touché. Et puis, à l'époque, les disques remplissaient cette mission, finalement. On a plein d'exemples où il y avait des artistes qui vendait beaucoup de disques. Aujourd'hui, tout a changé. Et donc, la diffusion, la captation audiovisuelle de leur travail, et surtout quand elle est diffusée mondialement, leur garantit une visibilité et une opportunité, une chance de toucher un public plus nombreux et très connaisseurs. Donc, ils sont très motivés pour le faire. Donc, finalement, la pression un peu supplémentaire, elle est compensée par cette promesse d'élargir complètement leur audience et ça, ça les motive.
D'autant que vous leur proposez une visibilité internationale très tôt, très jeune, comme vous le disiez tout à l'heure avec Jonas Kaufmann, par exemple. Quels sont les jeunes musiciens, les jeunes artistes que Mezzo suit, accompagne, encourage aujourd'hui, depuis quelques années, ou veut mettre en avant?
Là, on aura, dans le cadre de ce festival, hein, parce que pour les 25 ans, on a vraiment créé un festival qui commence ce soir avec un concert exceptionnel dédié aux jeunes talents, justement. On a même un pianiste de 13 ans qui va être sur scène, donc c'est vous dire à quel point on est convaincu de son talent, parce qu'on est très attentif et précautionneux et très prudent hein, pour ne pas exposer les artistes trop tôt. Mais avec lui, on est convaincu qu'on a une chance folle. Et jusqu'au 1er mai, donc on aura cette combinaison de grands maîtres et puis de jeunes talents. Et je pense par exemple à Bruce Liu, hein, qui est un artiste merveilleux, un pianiste, hein, qui a gagné le dernier concours Chopin et qu'on a eu l'occasion donc de connaître très tôt. Je pense à Lucas Debargue, qui fera aussi partie de cette programmation et qu'on a découvert au concours Tchaïkovski. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous comme ça avec ces jeunes talents. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un peu étrange de les appeler jeunes talents, parce que certes, leur état civil est jeune, ils ont moins de 30 ans, donc ça reste jeune. Mais quand on voit leur maturité et leur projet, ils sont vraiment extrêmement avancés dans la réflexion. Thank you.
Une étude de Chopin par le pianiste Bruce Liu, jeune et brillant pianiste canadien, révélé donc au concours Chopin et que vous pourrez retrouver sur Mezzo le 20 avril. Il jouera le deuxième concerto de Chopin avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de la jeune et brillante chef finlandaise Dalia Stasevska et ce sera en direct de Montréal, l'un des moments forts de la programmation du 25e anniversaire de Mezzo que nous évoquons ce soir avec son directeur Hervé Boissière. Comment l'avez-vous pensé à cette programmation comme un festival, vous le disiez tout à l'heure. Quels seront les autres moments forts?
Écoutez, on voulait d'abord vraiment mettre un accent très particulier sur les événements en direct parce que c'est quand même ça la signature de Mezzo. Et puis on sait que ça donne rendez-vous au public de façon événementielle. Donc on va proposer pendant lors de ces prochaines semaines 17 directs. Donc c'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été fait en 25 ans. On a régulièrement des directs, mais aussi concentré dans le temps, je crois que ça n'est jamais arrivé. Et avec vraiment, vous le disiez, des événements alors qui reflètent toute la diversité de Mezzo, hein, puisque Mezzo, c'est vraiment une chaîne dédiée à la musique classique et à l'opéra. Mais il y a aussi beaucoup de programmes de danse et beaucoup de programmes de jazz. Et donc, on s'est efforcé de regrouper, de proposer des événements qui reflètent cette diversité et puis aussi qui soient issus un peu de géographiquement de plein d'endroits différents parce que ça nous importe beaucoup pour bien souligner le caractère international de la chaîne. Et après, c'est une combinaison heureuse entre les calendriers, les accords d'artistes, l'envie de représenter 25 programmes historiques qui ont marqué l'histoire de cette chaîne. Donc, pendant les prochaines semaines, on aura 17 directs et 25 programmes iconiques, historiques, emblématiques. Vous parliez du Fidelio, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, on a essayé de trouver un équilibre intelligent éditorialement pour que ça donne envie aux spectateurs de chaque soir. Là, il faut que dans leurs agendas, ils notent anniversaire Mezzo pour que tous les soirs, ils soient devant leur télévision.
Et puis, il y a de quoi donner envie d'être devant sa télévision ces prochains jours, ces prochaines semaines. Vous suivez également des événements tout récents. Enfin, vous retransmettez des événements tout récents. Je pense à cette production des Mamelles de Tirésias et du Rossignol au Théâtre des Champs-Élysées. Magnifique spectacle qui sera diffusé sur Mezzo le 28 mars. Et puis, Nixon in China de John Adams, très attendu à l'Opéra National de Paris, que l'on pourra découvrir également sur votre chaîne le 14 avril. Mezzo qui fête ses 25 ans. Vous en êtes le directeur, Hervé Boissière. Vous dirigez également Medici TV. Qu'est-ce qui différencie profondément ces deux médias pour vous?
Écoutez, l'usage, on va dire, hein, c'est-à-dire que Mezzo est une chaîne linéaire, donc qui propose des programmes qui ont été agencés et réunis par l'équipe Mezzo, c'est-à-dire qu'il y a un vrai choix éditorial, il y a une proposition qui a été faite en amont pour créer cette programmation et donc proposer aux spectateurs une offre qui est déjà disponible, on va dire. Quand Medici TV, c'est une plateforme digitale à la demande, donc là, c'est le mélomane qui va aller fouiller dans un très très vaste catalogue les programmes qu'il veut regarder et écouter. Et
donc c'est Netflix, c'est l'équivalent de Netflix.
C'est un Netflix, exactement, pour la musique classique filmée. Il y a plus de 3000 programmes disponibles comme ça à la demande. Donc c'est vraiment en fonction des pays, des usages, des âges, très complémentaires. Il y a beaucoup de synergie entre les deux, mais c'est juste le choix entre une proposition qui a été décider et préparer à l'avance ou une proposition que vous faites vous-même. Ça dépend des moments et des humeurs, je dirais.
Et quelle place occupe aujourd'hui, Hervé Boissière, la musique filmée, la musique télévisée? Est-ce que la pandémie, par exemple, qui a créé de nouvelles habitudes, a engendré quelque part de nouveaux spectateurs, une vraie fidélité pour Mezzo?
Oui, c'est certain que la pandémie a fait découvrir à beaucoup de public, en fait, cette expérience de regarder et d'apprécier de la musique classique ou de l'opéra filmée. Les théâtres étant fermés, le public s'est retrouvé dans une situation totalement inédite. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert et qui restent heureux de cette expérience. C'est totalement complémentaire. Il n'est pas question, évidemment, de remplacer l'émotion unique exceptionnel d'un spectacle quand on est dans la salle, c'est évident. Mais c'est vrai que notamment pour faire découvrir l'immensité du répertoire de la musique classique, c'est extrêmement précieux, extrêmement utile, puisque personne n'aura le temps d'aller écouter en direct dans les concerts et les salles et les opéras. tout le répertoire. Et donc, il y a un complément, une complémentarité donc très intéressante entre aller de temps en temps au spectacle, parce que les gens ne peuvent pas y aller trop souvent, c'est notamment pour des raisons de coût, mais de pouvoir explorer. Mozart a écrit plus de 20 opéras, on va en voir un ou deux par an, mais sur Mezzo, on peut regarder tous les autres. Donc, c'est là où je pense que ça prend tout son sens.
Voilà, Mezzo qui fête son 25e anniversaire. Merci beaucoup Hervé Boissière d'être passé nous voir. Et puis donc, une programmation exceptionnelle ces prochains jours, ces prochaines semaines sur votre chaîne pour souffler ces 25 bougies. Merci infiniment.
Merci.
Un petit extrait de la messe aussi de Bach par John Eliot Gardiner à la tête du chœur Monteverdi et des English Baroque Soloists. Une messe en si par Gardiner, c'est à vivre le 8 avril sur Mezzo dans le cadre de sa programmation anniversaire et en direct de l'Opéra Royal de Versailles.
Nouvelle génération de Thierry Ilerito avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Ce soir, une jeune soprano qui fait des vagues dans le monde de l'opérette.
Bravo Laure, en effet, elle s'appelle Clarisse Dahl et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est qu'elle ne manque pas d'allant. Elle était, la semaine dernière, l'une des héroïnes de Coup de Roulis, un ouragan de drôlerie tricoté en 1928 par un André Messager en fin de carrière, mais plus en verve que jamais, et un librettiste pas si triste, Albert Wimetz, lyriciste prodigue à qui l'on doit un véritable océan d'opérette, comédie musicale et autres vaudevilles pour joyeux de rilles en tout genre. C'est d'ailleurs dans une pièce à laquelle il avait collaboré, Là-haut, de Maurice Yvain, que l'on avait découvert Clarisse Dahl. C'était il y a pile un an et c'était déjà avec la compagnie des frivolités parisiennes, maître d'œuvre de la présente résurrection de Coup de Roulis. Il faut dire que du paradis plus déluré qu'azuré de là-haut à la mer tout sauf calme sur laquelle navigue le Montesquieu, cette cuirassée sur laquelle se déroule l'intrigue de Coup de Roulis, eh bien, il n'y avait qu'un coup de glotte que Clarisse Dahl franchit avec l'agilité opérétique d'une danseuse du ventre kérote.
Le Caire, qui est justement tiré l'une des destinations du Montesquieu.
Eh bien oui, je vous pitch la pièce en quelques phrases. À quelques jours de Noël, le capitaine de ce navire amiral de la marine française reçoit la visite surprise du député Pipradal et de sa secrétaire parlementaire, qui n'est autre que sa fille, Béatrice, alias notre Clarisse. Les Pipradal ne sont pas là pour la pêche à la baleine, mais pour la chasse aux dépenses militaires excessives. Et comme vous vous en doutez, eh bien, tout ne va pas se passer comme prévu. Notre délégation parlementaire va se heurter à la résistance des matelots du Montesquieu. Et sous leur bâchis, ces derniers ne comptent pas leur jouer du bouzouk. Heureusement, l'amour va s'en mêler et envoyer à fond de cale plan d'économie et rêve de mutinerie. Le tout sur fond d'auréole délicieusement anéfole.
Une ambiance années folle que Clarisse Dahl apprécie justement particulièrement.
Eh bien oui, et elle le revendique, l'opérette est l'un de ses univers de prédilection, lorsqu'elle ne joue pas avec les frivolités parisiennes, comme la semaine dernière. On la retrouve d'ailleurs à côté d'une autre compagnie, celle des Brigands, avec lesquels elle se produisit, c'était juste avant la pandémie, dans une autre comédie musicale de Maurice Yvain. Yes, comédie musicale, qu'elle et les Brigands ont pu reprendre l'été dernier au Festival de Saint-Céré. Et ça ne l'empêche pas, naturellement, d'aborder le répertoire moins léger au printemps 2021. On l'a ainsi vu incarner la fragile et trouble gouvernante du Tour d'écrou dans une production du drame de Britain, montée avec le CNSM de Paris à la Philharmonie de Paris. Et l'été dernier, eh bien, elle était aussi Miss Hélène dans l'Acmé de Delibes, au festival Les Nuits Lyriques de Marmande.
Et un festival, Thierry, auquel elle est particulièrement attachée, je crois. Hein.
En effet, d'une part parce qu'elle est lauréate du concours international de chant de Marmande, un concours lié au festival presque depuis sa création, et au cours duquel elle s'est vue décerner, c'était il y a un an et demi, le prix du centre de promotion lyrique Présence Féminine. C'est d'ailleurs à l'invitation de ce centre qu'elle se produira à nouveau le 4 mai prochain, à Marmande, donc, pour un récital dédié à Nadia Boulanger, ainsi qu'à sa consœur totalement oubliée, Elsa Barène, aux côtés de la pianiste Anne Lebozec. Mais si elle y est attachée, eh bien c'est aussi pour l'esprit de trouble de ce festival, un festival créé par un ancien régisseur des chœurs de l'Opéra de Paris, Monte des Chœurs, dont Clarisse, révélation Adami, ancienne académicienne de la première promotion de l'Académie Philippe Jaroussky, est elle-même issue. C'est en effet au sein de la maîtrise de Radio France que cette jeune Versaillaise aura la révélation à l'âge de 15 ans en participant à une exécution du Requiem allemand de Brahms.
Un extrait de la cantate « La nuit » de Maurice Ravel, cantate pour le prix de Rome, chantée par Clarisse Dahl avec le chœur et l'orchestre des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Clarisse Dahl.
Merci Laure.
Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Sarah Nemtanou et Romain Descharmes qui viendront nous présenter un bel album qui nous plonge dans le monde de l'enfance. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.